L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Jean-François Roth, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Denis Moreau. Bonjour Denis Moreau.
Bonjour.
Pour célébration du Cogito aux éditions du Seuil. Alors c'est votre 19e livre. Ce n'est pas le premier sur Descartes, loin de là, puisqu'en 2004, vous aviez publié Je pense donc je suis. Et puis en 2016, chez Vrin, La philosophie de Descartes. Donc vous êtes très plongé là-dedans. Alors. Cogito, ergo sum, tout le monde connaît cette histoire, tout le monde connaît ce mot, c'est mondialement connu, vous le redites de façon très forte. On aurait pu dire credo ergo sum, ça c'est, ou amo ergo sum, ça c'est plutôt Saint-Augustin, senso ergo sum, ce sont les romantiques, mais cogito ergo sum, et la traduction n'est pas forcément je pense donc je suis.
Alors, si, la traduction, alors vous êtes très savant, déjà vous êtes parti sur plein de phrases latines, la traduction de cogito ergo sum, c'est bien, ça, indiscutablement, je pense donc je suis. Le seul problème, alors c'est mon côté universitaire un petit peu pinailleur, vous me permettrez, c'est que Descartes l'a jamais dit, voilà.
Voilà, donc c'est déjà. Voilà,
donc cette formule que tout le monde connaît, alors si on veut être précis, il a dit, mais c'est une formule technique, hein, l'air de rien, donc il faut, c'est important de regarder comment elle se dit dans les détails. Il a dit en français, je pense donc je suis dans le discours de la méthode, donc qu'on considère comme le premier grand texte de philosophie en langue française, qu'il a publié en 1637, et puis Descartes écrivait en latin, la langue de son époque, donc il a dit ego sum ego existo, moi je suis, moi j'existe, dans ce qui est sans doute son chef-d'œuvre, les méditations métaphysiques. Il a écrit ego cogito ergo sum, mais moi je pense, donc je suis, en rajoutant un moi, dans un texte qui s'appelle Les Principes de la philosophie. Il a écrit dubito ergo sum, je doute, donc je suis, mais à strictement parler, cette formule, alors que tout le monde connaît et qui est devenue planétairement célèbre, hein, vous l'avez rappelé, elle n'est pas de Descartes. Voilà, donc c'est un petit côté
alors,
amusant.
Il faut quand même rappeler que lorsqu'il écrit son discours de la méthode, il a 41 ans, et en fait, c'est une préface pour des extraits du livre de Galilée. Le doute n'est-il pas, alors ça c'est une question historique et non pas philosophique, le doute n'est-il pas une espèce d'ironie politique face aux condamnations de l'Église devant Galilée, et que lui, il fait la préface et dit, bah, finalement, il faut douter. Ça, c'est pour les ecclésiastiques, mais aussi la pensée s'impose, et ça, c'est pour Galilée. Mais là, c'est une vision purement historique que je donne,
alors,
mais qui n'est pas la vôtre.
Je vois pas, il n'y a pas de préface au livre de Galilée, hein, je sais pas.
Mais c'est concomitant.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que Descartes avait écrit un livre qui s'appelait Le Monde,
oui,
où il exposait sa physique, et il s'apprêtait à le publier en 1633. Il arrivait au même résultat que Galilée, c'est-à-dire à démontrer que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, et là, Galilée est condamné, donc là, Descartes renonce à publier son livre.
Ouais.
Quand on lui demande pourquoi, il dit c'est par respect pour l'Église. Alors là, moi, j'ai tendance à penser qu'il est sincère, mais il y a beaucoup de gens qui voient là-dedans une forme d'ironie ou au moins de recul.
Moi, je le trouve très politique, en
quelqu'un
tout cas.
Quelqu'un qui veut éviter les ennuis.
Oui.
Alors après, donc, il y a le fameux doute cartésien, mais alors ça c'est pareil.
Alors ça on va y revenir.
C'est un peu compliqué. Bon,
parce qu'il n'y a pas de cogito sans le doute.
Ah bah le cogito, c'est ce à quoi on aboutit après avoir poussé le doute le plus loin possible.
Alors
c'est...
dans votre ouvrage, de façon très pédagogique, parce qu'il y a une partie très philosophique et il y a une partie très pédagogique, et il y a un tableau que vous donnez dans une page de gauche de mémoire où vous reprenez les quatre doutes. Et de quoi faut-il douter et quelle est la solution?
Oui.
On doute de son corps, on doute de ses sens, on doute de Dieu.
C'est le doute, c'est très organisé. Hein.
Et oui, bon, alors,
chacun,
allez-y.
Comme chacun le sait, Descartes est un penseur méthodique. Et donc, alors, il y a deux figures du doute chez Descartes. Il y a le Descartes, vous avez le discours de la méthode, donc vous savez, en partie, un texte autobiographique, hein, où Descartes raconte sa vie. Et donc, il raconte comment, jeune homme, déçu par ses études, il a commencé à faire une sorte de tour d'Europe pour voir un peu de pays. Et là, il y a une forme de doute, vous voyez, qui s'apparente à quelque chose comme du dandysme intellectuel, celui à qui on ne l'a fait plus, qui n'est pas dupe des comédies du monde. Donc ça, c'est pendant une dizaine d'années, Descartes qui fait sa formation intellectuelle. Et puis, il y a Descartes qui, un jour, mais alors ça, il insiste bien, hein, il dit, ce dont on va parler maintenant, vous le faites une fois dans votre vie, parce que c'est un peu dangereux. Il dit même, attention, c'est pour les professionnels de la philosophie, c'est pas à mettre entre toutes les mains, il faut y aller doucement. Et là, il décide, donc, de douter autant que possible de tout ce qu'il croit savoir. Et alors, il organise ça de façon très méthodique, donc en convoquant des raisons de douter. Et puis, à chaque fois, il y a quelque chose qui résiste à une de ces raisons de douter, donc il faut une nouvelle raison de douter. Alors, donc là, je suis en train de vous décrire très synthétiquement la première méditation métaphysique, je vous la refais en deux minutes.
Allez-y.
Première raison de douter, j'ai des informations sensibles. Mmh. Bon. Il se trouve que ces informations sensibles, indiscutablement, elles sont parfois, alors pas toujours, mais parfois erronées, quand il y a une illusion d'optique, par exemple.
Bon, là, le bâton dans l'eau
qu'on voit tordu, puis on le sort, il est droit. Enfin, il y en a, tant que les philosophes aiment bien ça, hein, il y en a tant qu'on en veut. Donc, puisqu'on a décidé d'exagérer, de pousser les raisons de douter aussi loin que possible, avec du parfois au fait du toujours, exit les informations des sens, mais pour avoir des informations des sens, il faut quand même avoir un corps, au minimum, donc... Le corps résiste à cette raison de douter. Simplement, mon corps, il m'arrive de rêver qu'il est dans telle ou telle position alors qu'il n'y est pas, l'argument du rêve. Alors, c'est recyclé par le cinéma hollywoodien contemporain, la distinction, l'indistinction entre rêve et réalité, mais c'est un argument qu'aimaient beaucoup les gens de l'âge baroque au XVIIe siècle. Donc, puisque parfois je rêve que mon corps est dans telle position alors qu'il n'y est pas, exit le corps. Il y a quelque chose qui résiste, les mathématiques, parce que même en rêve, 2 plus 2, ça fait 4. Et donc là, comme on a décidé d'exagérer... Alors, c'est du grand cinéma métaphysique, hein. Mais c'est fait pour, hein, puisqu'on va aussi loin que possible. Donc Descartes dit, bah, peut-être qu'il y a dans des puissances maléfiques, là vous avez deux figures un peu inquiétantes, un dieu trompeur ou un malin génie qui falsifierait ma pensée, même lorsqu'elle pense penser les choses les plus claires, comme les mathématiques. Exit les mathématiques, là... Alors discrètement, on est au XVIIe siècle, c'est un texte qui est soumis à la censure des théologiens de la Sorbonne, donc il y avait 3 lignes un petit peu contournées, où Descartes dit, bah, tant qu'on y est, on va douter de Dieu, oui. Donc un moment d'athéisme, et là on peut pas aller plus loin, hein. On a douté de tout, mais, alors c'est là, le texte est assez beau, Descartes, alors est-ce que ce que je viens de vous résumer, Descartes l'a vraiment fait?
Alors,
ou est-ce que c'est la question, une reconstruction?
Oui, voilà, la question, est-ce que c'est un doute métaphysique, c'est-à-dire un élément de méthode intellectuelle pour arriver, oui, pour sa démonstration, ou est-ce que c'est un doute existentiel qui va remettre en cause toute sa vie et même son quotidien? Comment vit-il quand il écrit ça?
Ça, il le dit, il dit attention, faut pas, c'est dangereux cette affaire-là.
Ben oui.
Donc, il y a 2 choses qu'on soumet pas au doute. Alors, c'est toujours pareil, est-ce que c'est de l'ironie, est-ce que c'est sincère? Moi, je pense que c'est sincère. Il y a les vérités de la foi, ouais. Donc, il dit, je mets à part les vérités de la foi, et il y a les vérités morales. Parce que, alors là, moi, c'est un Descartes qui me parle assez, c'est le Descartes en philosophe moral, qui dit, vous voyez, c'est ce qu'on pourrait appeler le syndrome Buridan, vous posez après cette histoire de l'âne de Buridan, qui a été forgé au XIVe siècle par le philosophe Buridan. Vous prenez l'âne de Buridan, puis vous lui mettez, il a faim, il a soif, et vous lui mettez à équidistance un picotin d'avoine et un seau d'eau, et puis vous lui dites, bon, ben voilà, commence. Alors là, s'il commence à douter, c'est-à-dire à attendre d'être absolument sûr de savoir s'il faut commencer par l'eau ou par l'avoine, il va mourir de faim et de soif. D'accord. Donc Descartes dit, dans le domaine de la vie, il y a une forme d'urgence qui fait que là, il faut se décider...
Se nourrir, il faut vivre.
Il y a une forme... Et donc, on ne peut pas attendre d'avoir atteint la certitude absolue. Dans le domaine de la vie, il faut se contenter de probable. En revanche, dans le domaine de la science, vous voyez, si pendant une semaine, je décide que je ne sais plus combien font 2 plus 2, ce n'est pas dramatique. Donc là, on peut douter autant que possible. Donc c'est quand même un doute qui est quand même organisé, circonscrit à certains domaines.
Donc poursuivons, parce qu'il faut aller du doute au cogito.
Eh bien, là, on est au bout, hein. On a douté de tout en rappelant les différentes étapes. Alors là, il y a un texte assez touchant où Descartes raconte une nuit blanche, disant « Je viens d'agiter bien des ténèbres, je ne sais plus très bien où j'en suis, c'est comme si je coulais dans les eaux du doute, et puis j'espérais toucher le fond, puis je ne le touche pas. » Et puis, à un moment, alors, peut-être que la formule des méditations, donc « Ego sum, ego existo »,« Moi je suis, moi j'existe », rend mieux compte que la formule « Cogito ergo sum » de ce qui se passe là. Il y a une espèce de réaction énervée face à tous ces arguments sceptiques dans lesquels on s'est perdu. Mais enfin, moi je suis, moi j'existe, c'est-à-dire que ça, alors c'est pour ça qu'on peut aussi le dire, je doute donc je suis. Il faut au minimum un sujet à toutes les opérations de doute qui viennent d'être évoquées. Et ça, alors moi je me permets d'insister là-dessus, ça on pourrait dire c'est du vrai vrai.
Et Unamuno le reprendra plus tard.
Alors tout le monde le reprendra, hein. C'est un des trucs les plus... Un témoignage de la puissance de cet énoncé, c'est le fait que je crois que depuis qu'il a été formulé par Descartes, tous les grands philosophes s'y sont confrontés. Mais j'insiste là-dessus, puis on est sur Radio Notre-Dame, c'est du vrai vrai. Là, on touche la vérité, on fait l'expérience que la vérité, nous pouvons la connaître.
Voilà, Jean-François Rode,
Et alors, moi, je crois que vous vous donnez l'exemple, vous faites la preuve de la clarté de votre esprit et de votre exposé. Franchement, le livre Célébration du Cogito, ça peut effrayer certaines personnes qui disent voilà, c'est de la philo-technique. Bien sûr que vous êtes un philosophe technique, mais là, vous savez faire, vous savez vraiment transmettre la chose et vous venez d'en faire la preuve. Donc, je dis toujours aux éditeurs, vraiment, ça vaut la peine d'être lu, en particulier parce que vous venez de dire. Quand on voit Descartes justement faire cette expérience de volontaire de doute pour chercher la vérité, c'est vrai que c'est quelque chose de vital et qui nous concerne tous. Moi, j'en fais penser aussi un peu aux exercices spirituels de l'Ignace de Loyola.
Ah, j'étais sûr.
Oui, forcément. Il y a un côté. Finalement, qu'est-ce que je fais de ma vie bon, ça c'est l'exercice spirituel. Hein. Comment j'oriente ma vie? Mais cette question de formidable de Descartes, et là, pour nous, il est vraiment utile, c'est que il cherche réellement la vérité et il finit par dire oui, la vérité existe rapport à tout un tas de gens qui disent oh, bah, qu'est-ce que la vérité. Vous avez un très beau passage sur le fait que les gens ont des objections sur la recherche même de la vérité.
Ah ben, il y a votre sceptique qui pose toujours la question, est-ce si sûr ?
Oui, hein, bah oui,
vous revenez régulièrement. Voilà.
Mais le sceptique, il est, dans cette affaire, il est battu sur son propre terrain. C'est ça qui intéresse. Au lieu de dire au sceptique d'emblée, tu ne m'intéresses pas, ça n'a pas de sens, on dit, bah, allez, on joue ton jeu, doutons.
Oui.
Et puis, on aperçoit que le scepticisme est une opération qui finit par s'autodétruire, en fait, qui poussait à son terme, aboutit à quelque chose de contradictoire, c'est-à-dire du geste même du sceptique jaillit la vérité. Vous voyez, pour moi, enfin, qui suis catholique, je pense que Jésus a dit « je suis la vérité », donc la vérité, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose
alors, justement,
dans ma vie. Et apprendre de Descartes que nous en sommes capables, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle philosophique. Hein,
Alors justement, vous revenez sur la manifestation de Dieu à Moïse. Dieu répond de façon mystérieuse et difficilement traduisible en français. Ego sum qui sum, c'est-à-dire je suis celui qui est, je suis celui qui suis, ou bien encore moi je suis qui suis. Cette dernière traduction suggérant que l'exaspération a peut-être saisi l'Éternel confronté aux questions répétées de Moïse. Et alors là, j'aime beaucoup ce passage, mais quand on dit « je suis celui qui est », on a quand même la carte de visite de la Sainte Trinité. Je suis celui, deuxième personne, qui est troisième personne.
Ouais, il faut bien tirer dessus quand même pour arriver à ce résultat.
ça semble lumineux. Bon, mais pour vous, c'est au fondement du cogito.
Alors, non, c'est un truc que je constate. Ça, bon, c'est quelque chose pour le lecteur d'aujourd'hui, ça va plus de soi. Mais
ouais,
je pense pour le lecteur du XVIIe siècle, ça sautait à la figure. C'est-à-dire que vous avez donc Exode 3:14, Moïse qui discute avec Dieu sur la montagne, qui lui demande qui tu es, et Dieu répond. Alors, ça dépend quelle langue parle Dieu, mais quand il parle grec, il répond ego eimi o on, je suis le moi, je suis l'étang. Et puis, dans la version latine de la Bible, il répond ego sum qui sum. Même en latin, c'est pas limpide. Hein.
Non,
je suis qui je suis. Bon, simplement, je constate que un des énoncés du cogito de Descartes, c'est ego sum, ego existo, et donc dans les deux, on a cette formule latine
ego.
Ego sum, moi je suis. Et donc, qu'est-ce que fait Descartes quand il formule son cogito ainsi? Il pique son nom à Dieu, en fait. C'est très...
Mais oui,
ça, je pense que on le voit plus parce qu'on lit plus la Bible en latin.
Oui.
Mais pour un lecteur un peu informé du XVIIe siècle, ça saute à la figure. Alors, qu'est-ce que ça... Et on peut se rappeler que dans l'évangile de Jean, Jésus faisant allusion lui aussi à Exode 3:14, quand on lui demande quel est son nom, répond à plusieurs reprises, ego sum, moi je suis. Donc, vous voyez, de la montagne à Descartes, en passant par Jésus, il y a une espèce de petite continuité. Là, qui est...
Alors, Jean-François Rode expliquait que vous redonniez goût à la célébration du cogito. Au cogito, d'ailleurs, votre titre « Célébration » est très important. Je ne parlerai pas de vulgarisation, mais je parlerai de réexplication. C'est ce que vous aimez, de réexpliquer, et de façon, je dirais, assez moderne.
Bring in the
Voilà, c'est un clin d'œil, Denis Moreau, parce que vous êtes un fan de heavy metal et de metal rock.
Oui, oui, alors je m'en fais pas nécessairement une gloire, mais c'est comme ça. c'est de la musique que j'aime bien. Le rapport avec Descartes ne va pas complètement de soi dans ma tête.
Non, mais il y a cette énergie-là qu'on ressent.
Il
y a cette énergie du metal rock que l'on ressent un peu dans votre... C'est un peu comme Paul Clavier, qui a un côté très rock'n'roll, parmi les philosophes contemporains.
Alors Descartes, reste à savoir, c'est une vraie question, ça. C'est quoi être rock, puisque
vous... Voilà, j'allais vous poser la question.
Alors, c'est quoi être rock la musique qu'on vient d'écouter, moi il m'arrive de traîner dans des festivals de musique metal, c'est une musique qui prend quand même en charge les aspects déchirés, contradictoires, compliqués de l'être humain, et donc si c'est ça le critère, qu'est-ce qu'être rock? Il y a des philosophes qui sont rock, et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, vous voyez Platon qui nous déchire entre sensible et intelligible et très rock, Aristote qui nous unifie autour d'une vertu apaisée ne l'est pas, Descartes avec la première méditation, cette espèce de mise en crise du savoir, c'est assez rock. Oui. Mais le King, là, il faut dire, c'est Pascal. s'il se vante, je l'abaisse, s'il s'abaisse, je le vante et je le contredis toujours jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est un monstre incompréhensible. Je viens de vous citer les pensées de Pascal, ça c'est super rock. Donc je pense que
là, on est dans le heavy metal. Est-ce que le doute chez Descartes, c'est pas un peu une méthode purement métaphysique et intellectuel, un peu comme le questionnement et l'interrogation pour la maïeutique socratique?
Oui, alors...
C'est-à-dire, en fait, juste un élément de méthode qui va arriver au cogito. Célébrons-le, le cogito.
Oui. La maïeutique socratique, ça sert en permanence... Enfin, je ne suis pas un spécialiste de Platon, hein, mais ça sert en permanence à trouver la vérité. Le doute de Descartes, j'insiste bien là-dessus, c'est... une fois dans sa vie, et puis une fois que ça a produit son fruit, c'est-à-dire le cogito, on se fonde sur le cogito pour réédifier le savoir, mais on arrête de douter, en fait. Hein. C'est vraiment une opération très ponctuelle. C'est pour ça que c'est vraiment un contresens sur Descartes d'en faire un philosophe qui doute en permanence et qui érige le doute. Hein. C'est pour ça que c'est aussi un contresens sur Descartes d'en faire le père de tous ces gens qui passent leur temps à se nourrir de fake news au motif que la science officielle est mauvaise. Descartes, c'est quelqu'un qui aurait... une fois la mise en crise du savoir opéré, toute confiance dans la science officielle.
Je vous cite: aux ineffables heures de doute, d'inquiétude et de fatigue, quand le découragement intellectuel saisit ou accable, lorsque tentent les séductions et facilités toujours renaissantes du scepticisme, ceux qui intéressent encore cette conception pourront donc relire les deux premières méditations pour y puiser réconfort et confiance et rasséréner, se remettre au travail. Se remettre au travail, non pas repartir dans la vie, se remettre au travail...
continuer à chercher la vérité.
Oui. Et vous soulignez ça plusieurs fois, que la philosophie, ce n'est pas du tout une petite promenade tranquille, mais que c'est un travail difficile qu'il faut accepter de risquer sa pensée et risquer sa vie. Vous expliquez souvent que c'est une vraie démarche très, très vitale, très existentielle.
Alors Jean-François Roth, puisque vous dites à Denis Moreau pour son livre Célébration du cogito seul qui vient de paraître que vous le dites souvent, vous dites souvent, c'est que vous connaissez l'œuvre de Denis Moreau, alors vous avez plusieurs minutes pour nous parler d'autres livres qu'il faut aller voler sur les tables de la procure.
Alors effectivement, d'habitude on parle plutôt d'autres livres, là j'avais vraiment envie de vous reparler encore de trois livres de Denis Moreau, parmi tous ceux qu'il a publiés. Je commence par celui-là, « Comment peut-on être catholique ?» parce qu'il est paru... Enfin, les trois sont parus en poche. J'ai choisi ceux qui sont faciles aussi à acquérir, en point seuil. « Comment peut-on être catholique ?» Évidemment, en écho à Montesquieu, « Comment peut-on être persan ?» parce qu'il pourra commenter, mais vous expliquez que vous avez des tas de collègues à l'Université de Nantes où vous enseignez, qui... avec qui vous vous entendez très bien, avec qui vous discutez beaucoup, etc., que vous avez beaucoup d'estime, et qui vous disent de temps en temps, « Denis, toi, tu es catholique, comment peut-on encore aujourd'hui être catholique? C'est une histoire réglée, c'est fini. » Et alors, vous êtes piqué au jeu, et vous avez décidé de leur expliquer pourquoi vous étiez catholique. Alors, vous racontez votre propre histoire, mais surtout, vous donnez les raisons que vous avez aujourd'hui d'être catholique, et c'est extrêmement convaincant. Donc, comment peut-on être catholique? Ben, lisez ça, vous allez voir, il y a de bonnes raisons d'être réellement catholique. Et en plus, vous êtes toujours très drôle, vous avez beaucoup de verve, beaucoup d'humour. Et on le voit même dans Célébration du cogito. Là, on n'a pas parlé de la première partie où vous citez tous les slogans dont on utilise de Descartes, en particulier en mai 68, « Je pense, donc je ne vous suis plus ». Enfin, les étudiants disaient ça à leur prof. Donc, et là, vous faites un chapitre au milieu de ce livre, donc comment peut-on être catholique, où vous pointez tout un tas de bêtises énormes qui sont racontées sur le christianisme et le catholicisme en particulier. Et là, vous donnez les noms. Hein.
Par des gens intelligents, c'est
par
ça.
Par des gens intelligents.
Les gens bêtes qui disent des bêtises, c'est moins étonnant, mais voilà.
Et alors, c'est très drôle, vous décernez un premier prix des accessites, c'est formidable. Alors, je cite aussi « Pour la vie, point d'interrogation, courtité du mariage et des séparations. » Alors ça, c'est un petit livre qui est là aussi très fin. Il me semble, vous racontez comment vous l'avez écrit, si j'ai bien compris. Vous êtes un jour, vous avez pris conscience que beaucoup des amis que vous aviez vus se marier, pour lesquels vous-même vous aviez des témoins, etc., des gens dont vous disiez, bon, ça c'est vraiment, ils sont faits l'un pour l'autre, ils sont sérieux, ils sont bien, ils se marient, c'est génial, c'est formidable. Et puis, oui, enfin, quelques années après, souvent, plusieurs, beaucoup, se séparent. Et alors, vous dites, il y a un vrai scandale, là. Comment c'est possible que des gens aussi bien, qui manifestement ont bien réfléchi, ont bien pris leurs décisions, pourquoi est-ce que ça se sépare ? Alors, le livre est très intéressant. Il est peut-être un peu dur au début, parce que vous insistez beaucoup sur les causes des séparations, mais c'est un livre très optimiste qui montre comment, en fait, on peut réellement vivre un mariage pour la vie, en supprimant là pour le coup le point d'interrogation. Très beau petit livre. Moi, je le donne beaucoup aux fiancés qui se préparent au mariage, par exemple. Et puis, je termine, enfin, je ne sais pas si on a encore un peu de temps.
Oui, oui.
Vous avez réuni dans un petit livre qui s'appelle Y a-t-il une philosophie chrétienne ? Trois essais, alors pour le coup, plus philosophique. Je trouve que le titre, si je puis me permettre, est un peu trop général, il y a une philosophie chrétienne. Mais par contre, les trois essais que vous faites ont la même qualité, je dirais, que Célébration du Cogito dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est clair et c'est très éclairant. En particulier, moi, je suis absolument subjugué par... Je ne connaissais pas ou pratiquement pas Malebranche, et vous avez une manière de parler de Malebranche qui est, alors là, pour le coup... formidable. Et donc, à la fois aussi comme un professeur, mais aussi, comme toujours, comme une leçon de vie pour soi. Donc, ces trois petits livres sont très...
Les grands livres. Il n'y a jamais de petits livres.
Exactement.
Il y a des livres de poche.
Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont en poche. C'est pas trop long. C'est même pas très long. Ça se lit toujours très bien, parce que Denis Moreau sait toujours mettre... l'humour qu'il faut pour parler des choses les plus sérieuses. C'est vraiment des livres formidables. Et je trouve que votre démarche de réexpliquer vraiment ce qu'est le christianisme, ce qu'est le catholicisme, et comment on peut s'engager de façon raisonnable, et même, c'est la façon la plus raisonnable de vivre, c'est probablement de s'engager dans le christianisme et le catholicisme. Je trouve que cette démarche formidable.
Merci beaucoup. je rosis, ça ne se voit pas à la radio, mais...
Mais si, on peut le voir sur YouTube. Je reviens sur cette différence entre vulgarisation et réexplication. On sent que vous avez cette envie, et c'est assez original d'ailleurs parmi les philosophes contemporains, de réexpliquer. Et pas du tout dans une vision de pédagogie, mais je dirais presque pour... nous permettre de nous approprier, par exemple, le cogito, ici, dans la célébration du cogito, de nous redonner les mots, le sens que nous pouvons... grâce à quoi nous pouvons nous l'approprier.
Oui, oui, alors sans doute... Bon, il se trouve, je suis enseignant, j'aime bien expliquer, ça vaut mieux dans mon métier,
oui.
Hein, c'est quand même... Et après, oui, alors... Bon, je sais pas, effectivement, alors, vulgarisation, c'est un mot, mais c'est un petit peu dommage que ce soit devenu un mot... vaguement péjoratif, parce qu'on entend vulgaire. Il faut
oui.
Un peu se rappeler que, à l'époque de Descartes, vulgaire, ça veut dire commun, banal. Donc le vulgaire, c'est monsieur tout le monde. Et donc moi, j'essaie d'écrire pour les gens qui... J'ai la chance, vous voyez, mon métier me donne la chance d'avoir accès à des trésors intellectuels, par exemple Descartes, un auteur fascinant.
Justement, pardon, une chose qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que ce livre-là redonne toute sa dimension à Descartes. Et vous expliquez quelquefois qu'on s'en tient au discours de la méthode, qui est qu'en fait, simplement, finalement, l'amorce, l'annonce des méditations métaphysiques. Et en vous lisant, on voit que Descartes n'est pas du tout le cartésien simpliste qui est souvent dans la tête des gens. On retrouve la dimension de Descartes.
C'est un auteur très caricaturé de plus en plus. Sans doute, si vous me permettez une confidence, mais une considération personnelle, jeune homme, j'ai été éduqué dans la foi chrétienne par mes parents. J'ai fait ma crise de foi, comme tout le monde, entre 18 et 22 ans, en remettant un peu ça en cause. Et c'est Descartes qui m'a ramené à la foi catholique, en fait.
Célébrons
la lecture de Descartes. Donc
célébrons Descartes et célébrons le Cogito, Denis Moreau, aux éditions du Seuil. Merci infiniment. Merci Jean-François Rode. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique. Demain, nous irons au théâtre, repérer un peu les têtes d'affiches qui se profilent dans la deuxième partie de saison. Et puis, des pièces à voir, notamment à Lyon, où il y a une programmation tout à fait passionnante. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, il fait froid. Prenez soin des autres, il fait froid. Je vous embrasse.